danse, danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu n'aies pas une peau, que tu te sois tapé Sciences Po, pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face, viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu sois bourgeois ou prolo, vieux déjà ou un peu jeune, pas de problème, viens au bistrot, on y est bien et jamais tôt. On n'est pas là pour gratter, on est venu pour s'enivrer de connaissances comme des pots, mais pas de lézards dans nos bistrots. Allez, danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.
Je suis devenu journaliste parce que quand j'étais petit, 6 ans, il paraît, c'est ce que rapporte la famille. Quand on me demandait qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, je disais je veux être journaliste. Alors pourquoi je dis ça? Quelle vocation formidable! C'est que je n'avais aucune idée ni de ce que c'était un journaliste, ni surtout de ce qu'étaient les journaux.
Le cerveau fait la cuisine, dans les petits plats, nos 6 boulots, ce qu'on nous cerne, c'est comme il faut.
S'enivrer, mais de savoir, s'abreuver, mais de connaissances, se griser, mais de questions. Voilà ce que vous proposent les moines de l'abbaye du Jouir. Ils reçoivent aujourd'hui en leur bistrot, pour le plaisir de tous, l'ami Marc Kravets.
De l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots. C'est pas le diplôme qui nous motive, ce qui nous sert de locomotive, c'est d'être ensemble et bien plus beau, grâce à cette université des bistrots. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.
D'abord bonjour, bonjour à tous, bonsoir à tous. Je ne vous cache pas que je suis très impressionné. D'abord c'est avec un immense plaisir que j'avais accepté l'invitation de Jean Bochco. Mais je ne m'attendais pas à ça, voilà. Je ne m'attendais pas à cet accueil, je ne m'attendais pas à ces chansons, je ne m'attendais pas à vous. Voilà, c'est formidable. Alors, comme je fais un métier dans lequel, en général, les adjectifs, les épithètes sont généralement déconseillés parce qu'ils servent à autre chose. Donc, il faut être aussi près que possible des choses simples, sujet, verbe, complément, pardon. Excusez-moi. Le compliment, ça fait partie aussi, hélas. De quelques déviations de ce métier. Autrement dit, je vais commencer par vous dire des choses un peu austères, parce que c'est un sujet sérieux. Il est très à la mode aujourd'hui de parler de l'information, de la désinformation. Faut-il croire les journalistes? Encore récemment, d'ailleurs, dans notre studio 168 de France Culture, on a eu un débat sur ce sujet avec un journaliste, en tout cas, qui s'intitule comme tel, extrêmement célèbre, extrêmement connu en tout cas. C'est un vrai débat. On a l'impression qu'on entre dans la chair et le sang des choses. Honnêtement, je ne crois pas. Donc, on va commencer par des choses simples et un peu austères. Et puis ensuite, on élargira. L'information. L'information, ça fait tout simplement partie de l'existence, en tout cas de l'existence organisée, sociale, humanisée, ce qui ne veut pas dire forcément civilisée. Dans toutes nos conduites, dans tout ce qu'on fait, nous travaillons avec de l'information. L'information n'a rien à voir avec les journaux. L'information n'a rien à voir avec... elle a beaucoup à voir avec l'apprentissage, mais l'apprentissage n'a même pas forcément à voir avec l'école ni avec l'instruction. Ça a à voir avec le milieu, avec la famille, avec la tribu, peu importe où on fait remonter cette histoire, mais tous les actes d'une existence sociale passent par une information. On fait très peu de choses spontanées. Alors, on pourrait prendre n'importe quel exemple, on perdrait du temps à les énumérer. Mais pourquoi je vous dis ça au départ ? C'est parce que il n'y a pas un... Alors, il y a un moment où l'information et les journaux vont se rencontrer, ça va être un moment essentiel, et qui va occuper évidemment l'essentiel de nos conversations. Mais pendant très longtemps, l'information... Alors, ça ne s'appelait pas forcément de l'information. Ça peut s'appeler de l'apprentissage, de la culture, en tout cas au sens un peu anglo-saxon du terme, qui englobe la totalité des formes de organiser de la vie, qui commence par tenir une fourchette, sucer un biberon, dire bonjour, au revoir. Toutes ces choses-là, aucune n'est spontanée, on n'est pas né comme ça. L'existence animale, d'ailleurs l'existence animale aussi, on fait beaucoup de progrès dans ce domaine, suppose une ingestion d'informations et voire, dans de nombreuses espèces, une communication de cette information. Donc, ce n'est pas un hasard, bien sûr, mais c'est un moment très particulier de l'histoire et de l'histoire moderne qui fait coïncider l'information et les journaux, où le problème commence. Pour le situer, grosso modo, ça se passe aux environs, disons, près de la deuxième moitié du XIXe siècle. Ça commence plutôt, d'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, dans les pays nordiques, aux États-Unis d'Amérique, dans les pays qui vont développer extrêmement vite, fort, ce qu'on a appelé la révolution industrielle, le capitalisme industriel, comme vous voudrez, tout cela allant d'ailleurs de pair, qui se caractérise par plusieurs choses, à la fois des évolutions technologiques, techniques et technologiques extraordinairement rapides, et tout va se conjuguer pour permettre aux journaux de naître et d'exister. Enfin non, je dis une bêtise. Les journaux ont existé depuis très longtemps. Vous avez appris à l'école, comme moi, que la Gazette de Théophraste Lorenaudeau, mais ça, c'est purement français. Ailleurs, il y a eu aussi des moyens comme ça de communication écrite à travers alors des choses imprimées depuis que l'imprimerie existe, mais il y avait d'autres manières de communiquer pour se transmettre, justement, des informations utiles aux uns et aux autres. L'information et les journaux, c'est donc totalement contemporain de la révolution industrielle, qui correspond, sur le plan sociologique, au fait que les gens, les modes de vie changent radicalement et irréversiblement. Et c'est là que les journaux vont naître, se développer et devenir nécessaires. Alors, naître et se développer, ça suppose d'autres transformations. Sans l'imprimerie, il n'y aurait pas eu un minimum de moyens de communication de masse. Bon, l'imprimerie va permettre déjà de diffuser du livre, et puis ensuite des libelles, et puis ensuite donc la Gazette de Théophraste Renaudot, puisque c'est ici que ça se passe. Là, on est dans un autre domaine. Les journaux, ça va servir à trouver une espèce de socle commun sur lequel les gens savent grosso modo, entre guillemets, on entrera dans les détails plus tard, ce qui se passe. Les journaux qui ont existé auparavant, car il en a existé de nombreux, ils ne servaient pas du tout à cela. Les journaux, c'était des livres qui n'étaient pas des livres, c'était des pièces de théâtre qui n'étaient pas des pièces de théâtre, c'était une espèce de sous-culture. Un des plus grands écrivains français du XIXe siècle a dit des choses définitives, c'est-à-dire tout le mal qu'il fallait penser, de ce qu'on appelait les journalistes. C'est donc Honoré de Balzac qui a écrit des choses assassines, mais assez justes. Pourquoi ? Parce que, en gros, qui était, entre guillemets, journaliste dans ces époques, ben, c'est des gens qui n'avaient pas, parce qu'ils n'avaient pas réussi en littérature, ils écrivaient des libelles plus courts dans ces petites feuilles, parce qu'ils n'avaient pas réussi au théâtre, ils faisaient de la critique de théâtre, etc., etc. Donc de l'humeur, de l'opinion, de tradition qui s'est, on aura l'occasion d'en reparler, largement prolongée dans la y compris dans notre culture française de la lecture des journaux. C'est un vaste problème, dont je dirai un mot plus tard. Mais ça n'était pas propre à la France. Toutes les sociétés industrielles ont connu, peu ou prou, ce modèle-là. Sauf évidemment des pays très jeunes, qui sont nés à la fois avec la conquête et avec une expansion extraordinairement rapide du capitalisme industriel. Donc on pense évidemment aux États-Unis d'Amérique. Et c'est là qu'est né ce qu'on appelle la grande presse. Pourquoi naît cette grande presse ? Grande presse, à ce stade, est un terme neutre qui vise simplement son extension, son expansion territoriale, son lectorat. C'est-à-dire que ces petits journaux d'opinion, d'humeur, etc., on pouvait les diffuser à 100 exemplaires, à 1000 exemplaires, à 2000 exemplaires, mais c'est un grand maximum. Là, on va tout de suite parler de centaines de milliers, de millions d'exemplaires où les gens vont tous lire quelque chose et, grosso modo, avec des guillemets, la même chose. Qu'est-ce qui conduit à ça ? Il conduit à ça le fait que, dans une société toute neuve, que sont les États-Unis, donc avec ces vagues de migrants qui arrivent du monde entier pour créer donc ces États à la fois fédérés et réunis au sein d'une sorte de projet d'État commun, donc l'État fédéral américain, ils ont tous des cultures, des modes d'approche des choses, des opinions, puis ensuite la politique s'en mêle. La société américaine se fonde sur des bases extrêmement démocratiques, c'est donc la constitution américaine, donc c'est la première constitution de ce type dans le monde, c'est la déclaration des droits, donc les fameux amendements sur le respect de la liberté d'expression, de conscience, etc., etc. Tout cela, personne, évidemment, ne va le remettre en cause. Sauf que s'il n'y avait que ça, si les gens communiquaient à travers ça, ils communiqueraient, au fond. Alors, des fois, ça pourrait être paisible, et des fois, ça pourrait l'être moins. Et le plus souvent, ça le serait moins, quand les gens auraient... C'est bien d'exprimer des humeurs, mais on en arrive vite aux mauvaises humeurs. Et donc, l'idée... Personne ne s'est réuni comme ça dans une grande pièce en disant « on va avoir l'idée ». Mais c'est quand même des gens qui se sont mis à réfléchir là-dessus. Donc l'un des plus connus, parce qu'il a donné naissance au prix de journalisme le plus célèbre aux États-Unis, qui est M. Joseph Pulitzer. Mais il y en a quelques autres. Donc on est là dans les années 1840, 1850, 1860, se disent « il faut que nous ayons des journaux qui soient l'équivalent pour tout le monde, pour le peuple, de ce que prétend dans ses principes la Constitution américaine. Donc, « we the people », c'est les premiers mots de la Constitution américaine, « nous, le peuple », et un peuple souverain, donc qui élit... vous savez qu'aux États-Unis, on élit à peu près tout. Il y a beaucoup moins de fonctions administratives. Il y a une grosse bureaucratie, mais c'est une autre histoire. Mais presque toutes les fonctions sociales et institutionnelles sont des mandats électifs, depuis toujours. Je ne discute pas de ce qu'on en fait, de comment on peut truquer des élections, tricher, etc. C'est autre chose. Mais le principe est là, ce principe démocratique quasi absolu où on élit tous les gens chargés à la fois de nous représenter et d'agir dans à peu près tous les domaines, que ce soit du pouvoir exécutif, de la justice, de l'éducation, etc., ça suppose que leurs électeurs soient informés. Et être informé, ça veut dire qu'ils aient à leur disposition un espèce de socle commun de ce qu'on appelle les faits, les facts, donc en anglais. Le « just facts » va devenir cette devise pour cette presse de grand public, à partir de laquelle chacun, évidemment, fera son jugement, son opinion, décidera ce qu'il veut. Mais cette idée qu'il faut d'abord établir des faits sur lesquels on ne peut pas être en désaccord parce que 1 et 1 font 2, et que le jour n'est pas la nuit, que le vert n'est pas le rouge, etc., aussi banal que ça puisse sembler, provoque une véritable révolution industrielle et sociale qui permet de produire les journaux. Nous, on va arriver très tard derrière cela. Et pour produire ces journaux, pour produire ces faits, qui doivent s'imposer à tout le monde, non pas s'imposer parce que c'est une vérité révélée, mais s'imposer parce que c'est une vérité prouvée, n'oubliez pas qu'on est dans des sociétés de culture anglo-saxonne où on cultive plutôt donc l'empirisme, le pragmatisme, donc la preuve par la science, par la démonstration, plutôt que nos sociétés plus philosophiques qui, elles, dérivent tout des concepts et des grandes idées. Donc on est plutôt dans cette essence pragmatique du consensus social. Et donc, pour qu'il y ait des faits, il faut qu'il y ait des gens qui aillent les chercher. Et ce qu'on va appeler des journalistes aux États-Unis, on ne les appellera pas d'ailleurs des journalistes. On va les appeler des reporters. Reporter, alors, a pris un sens, évidemment, plus ou moins romanesque, plus ou moins légendaire, plus ou moins noble. Mais enfin, bon, on a l'impression d'être dans une espèce de caste aristocratique de ce métier, surtout quand on ajoute, ce qui est assez proprement français, le titre de grand reporter. Et je le dis avec d'autant plus d'aise que je l'ai porté pendant une vingtaine d'années, qui ne veut rigoureusement rien dire. Mais le reporter, au sens anglo-saxon du terme, c'est tout simplement celui qui rapporte, celui qui va voir des choses et qui interroge le pour, le contre, les notables, leur opposition, telle ou telle personne en charge d'eux, ou telle et telle personne contestant la décision d'eux, qui essaye avec tout ça de construire ce qu'on appelle une story, nous on appelle ça un article. C'est très important que c'est l'origine anglo-saxonne des articles, c'était de raconter à chaque fois une histoire. Le cœur de ce journalisme qui va créer de très grands journaux, qui vont, certains titres d'ailleurs existent jusqu'à aujourd'hui, alors ils ont changé plus ou moins de libelle, mais enfin le New York Times, le Los Angeles Times, le Boston Globe, le Washington Post, le Miami Herald, etc., etc., vise à dire, voilà, on va vous présenter de la manière aussi rigoureuse que possible. Il y a un mot anglais pour le dire qui est accuracy, qui est, il n'y a pas de tradition, de traduction vraiment correcte en français, mais c'est la devise de Joseph Pulitzer, il l'a écrit au-dessus de son bureau, accuracy, accuracy. Il y a une part de morale, bien sûr, et même de morale puritaine, on est quand même dans une société qui est très imprégnée de ces valeurs religieuses, mais qui ne sont pas des valeurs religieuses de type catholique, qui sont des valeurs religieuses de type plutôt protestant, où il n'y a pas, ce n'est pas une hiérarchie qui apporte la vérité, c'est la communauté des croyants, des gens de foi. Et à l'intérieur de ça, donc, on veut créer cette base commune, et puis à partir de là, bien sûr, les gens qui comptent dans les journaux, et d'ailleurs cette séparation existe encore aujourd'hui, donc le reporter, c'est un peu le soutien de cette histoire, c'est celui qui est sur le terrain, qui prend des notes, qui éventuellement remplit un questionnaire que lui fixe son chef de service, son rédacteur en chef. Et puis ensuite, dans d'autres pages, alors à ce moment-là, on donne son opinion, mais ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas le journaliste qui a été chercher les faits qui donne son opinion, c'est les propriétaires du journal. Alors aujourd'hui, évidemment, ça, c'est un peu compliqué parce que les propriétaires des journaux ne sont plus réellement les gens dans le journal. Enfin, dans de nombreux cas, c'est des fonds de pension, c'est tout ce que vous voudrez. Donc, mais on examinera plus tard, si vous avez des questions à ce sujet, cet aspect-là des choses. J'essaie simplement de fixer un cadre pour cette histoire que je vais abréger, donc, de ce que c'est que la constitution de l'information et du rapport entre nos journaux et l'information. Donc dans cette préhistoire des journaux de base, qui est déjà une histoire solidement installée, en 1890, enfin, au tournant du XXe siècle, ce sont des journaux qui, soit en propre, soit parce que c'est un pays très vaste, donc avec des titres qui varient selon qu'on change d'État ou de grande ville, mais c'est tout, ce sont les mêmes journaux. Donc ce sont des millions et des millions d'exemplaires. Et puis, alors, donc, il y a la partie facts, les faits, et puis il y a la partie opinion, humeur, jugement, qui, elle, relève de gens qui, comme le disait le défunt Coluche, qui s'autorisent à penser. Et qui s'autorisent à penser, qui proposent aux lecteurs, cette fois, leur opinion, leur analyse, mais on sépare les deux. Voilà, je voulais juste mettre ça rapidement en scène, sinon en perspective, pour vous dire que cette idée d'information et ce lien entre l'information et la presse, c'est une idée qui, d'une certaine façon, est tout à fait contemporaine d'une société massifiée, d'une société organisée et hiérarchisée, mais pas organisée à l'ancienne, hiérarchisée à l'ancienne, organisée à l'intérieur, donc, puisqu'on n'a pas eu véritablement d'autres modèles. Les modèles révolutionnaires, bolcheviques, socialistes, communistes sont arrivés plus tard. Donc sur le capitalisme industriel qui veut une certaine forme de démocratie citoyenne, en tout cas au moins sur le plan politique, sur le plan social c'est une autre paire de manches, a besoin de cet outil-là. Et cet outil-là alors ne serait pas né non plus, donc je le passe pour mémoire, simplement pour vous Évidemment, s'il n'y avait pas eu d'autres révolutions technologiques, ça n'aurait pas été possible. On va en citer trois, et puis ça, on s'arrêtera là. La première, c'est le chemin de fer, qui permet de transporter évidemment des journaux très vite et très loin. On est avant les avions, bien sûr. La deuxième, c'est les énormes rotatifs qui permettent de fabriquer des centaines de milliers d'exemplaires en très peu de temps. Et la troisième, c'est la télégraphie ou la téléphonie. En France, ça ne se passe pas vraiment comme ça. En Europe, c'est un peu plus lent. Mais en France, on est probablement l'un des pays qui a le plus longtemps résisté à cette idée qu'il y avait des faits, des reporters, des reportages. Alors, quand on fait ce métier, quand on est reporter, alors on a une espèce de demi-dieu, dont vous avez au moins entendu le nom. Il faut tout de même en dire un mot, qui est donc notre saint patron, Albert Londres. Alors pourquoi Albert Londres ? Albert Londres, on a une floraison de journaux en France à la fin du 19e siècle, mais c'est considérable. Il y a plus de quotidiens à Paris que vous n'en trouverez aujourd'hui. Et mieux que ça, c'est qu'il y a des quotidiens, des journaux dans la France entière qui sont des vrais journaux. Pourquoi ? Parce que des familles ont envie de... voilà, elles pensent que c'est bien d'avoir un journal, que c'est une manière d'exercer... ou de peser sur les notables, ou d'exercer une fonction de notable. Et ce sont des vrais journaux. C'est-à-dire que ce qu'on rapporte dans cette notion de presse régionale ou de presse nationale, qui est d'ailleurs fort peu, qui est une presse parisienne et donc une presse hors de Paris, est une notion qui arrive très très tard dans notre histoire. Dans toutes les grandes métropoles régionales ou provinciales, il y a des journaux qui sont des vrais journaux. Et ça va d'ailleurs se prolonger pendant un certain temps, généralement, qui sont des propriétés de familles, évidemment, de familles riches. Il y a même aussi quelques journaux qui sont issus de coopératives ouvrières. Enfin, on a une histoire de presse extrêmement riche dans ce pays. Mais ce n'est pas une histoire de presse d'information. À Paris, c'est surtout des journaux brillants, polémistes, littéraires, un peu académiques, mais où on se bat à fleur et mouchetée, mais avec des termes parfois très violents. Les journaux reproduisent de manière extrêmement servile et sans se poser la question les communiqués d'état-major. La guerre aura déjà 2 ans qu'on l'a gagnée à peu près tous les mois. Et pourtant, il meurt des milliers, des centaines de milliers et des millions de gens, de soldats sur le front. Et donc on est dans une presse purement de propagande. Et puis voilà, au tout début de la guerre, donc dans ce journal... Si ce n'est pas le Petit Journal, vous me pardonnerez. Donc je ne nomme pas le journal, mais parce que j'ai un trou de mémoire. Albert Londres se retrouve, mais c'est presque anecdotique, se retrouve à Reims le jour du bombardement de la cathédrale de Reims par les Prussiens. Et ce garçon qui a des petits dons littéraires, alors qu'il n'a pas forcément trouvé avec la littérature et la poésie toutes les satisfactions qu'il pouvait en attendre, et qui sait écrire, qui aime écrire, etc., raconte ce qui s'est passé sous ses yeux pendant qu'il était à Reims au moment du bombardement. Enfin, il est arrivé juste après. Enfin. Et ce papier, comme on dit dans le jargon des journalistes, fait sensation. Alors, c'est pas tout à fait exact, mais il est bon, quand on raconte des légendes et des histoires, de dire « tout a commencé ce jour-là », devient le premier reportage de l'histoire de la presse française. Voilà. C'est très court, hein. Mais bon, après tout, Albert Londres a fait ce que nous avons tous fait quand nous étions à l'école. Alors, au lieu de raconter un souvenir de vacances, c'était raconter un épisode de guerre. Évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. Mais il a raconté une histoire. Il a fait une rédac. C'est une rédaction. On ne fait pas de rédaction dans les journaux comme on ne fait pas de rédaction quand on devient sérieux à l'école et on arrête de faire des rédactions pour faire des dissertations. Et ce modèle s'est tout à fait transposé dans la presse. Sauf que il y a beaucoup de gens qui ont, Albert Londres à l'époque, à petite trentaine, même pas, enfin, mais il n'est pas tout jeune quand même, c'est pas un débutant, il a déjà fait pas mal de choses, il n'est pas non plus un journaliste blanchi sous le harnais. Voilà, donc il a eu cette idée. Et puis il y a des gens qui se disent, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et peu à peu, vous allez avoir dans différents journaux des gens qui vont aller raconter des épisodes sur le terrain. Et comme on est en pleine guerre, ça pose d'énormes problèmes. L'état-major doit prendre, qui accrédite, alors plus tard, on dira ça d'un terme un peu pompeux, des correspondants de guerre. À l'époque, ça s'appelle, je sais plus comment, le correspondant aux armées. Mais pour l'état-major, le correspondant aux armées est un scribe qui doit simplement reproduire fidèlement pour ses différents lecteurs dans toutes les régions de France des communiqués triomphants. Il n'est pas question. Même de, d'ailleurs, Albert Londres, qui a des termes très patriotards dans ses articles, c'est suce aux boches, quoi. On peut pas dire que ça soit spécialement pas, d'ailleurs, il n'est pas du tout antimilitariste. Il a un esprit un peu anarchiste comme ça, enfin, un peu rebelle. Mais en gros, il ne conteste rien. Mais il fait une chose qui va lui valoir les pires ennuis avec la censure. C'est que, puisque j'y suis, il raconte comment c'est de vivre dans les tranchées. Comment ça se passe? Et il ne fait, c'est pas du tout, il ne relaye pas les plaintes de contestataires, de bolcheviques, d'anarchistes, de mutins qu'on va plus tard fusiller. Non! Il dit simplement, voilà, ils ont les pieds dans la boue, ils bouffent mal, ils pleurent et des fois ils ont peur. Enfin, tout ce que le tas-major ne veut pas entendre. Si on est dans les tranchées, c'est qu'on est des patriotes, c'est qu'on est prêt à se battre et à mourir pour la patrie, point final. Et on est très content de ce qui nous arrive et on n'a pas à avoir d'état d'âme. Et d'une certaine façon, le premier coin qui s'enfonce dans cette espèce de presse uniforme et conforme, c'est tout simplement de raconter ce qui se passe. Et c'est en gros ça qui va fonder cette évolution qui a déjà, qui l'a précédée en Grande-Bretagne, aux États-Unis, un peu ailleurs, qui fait naître donc cette tradition du reportage et bientôt de l'enquête dans les journaux français. C'est-à-dire d'être, en gros, le journaliste est un reporter qui va là où des choses se passent et qui les raconte. Et quand on a dit ça, on a à peu près résumé en quoi devrait normalement consister l'information. Alors bien sûr, il ne suffit pas, on n'est pas un œil indifférent et ignorant, on va en général dans des endroits qu'on ne connaît pas, donc il faut aussi s'informer soi-même, se documenter, mettre les choses un peu en ordre, ne pas se feindre de s'étonner parce qu'on rencontre des gens étranges qui ne nous ressemblent pas et on se dit c'est des barbares. Bref, bien sûr que ça suppose un minimum d'éducation, mais la base de tout ça, c'est on voit, on va, on voit et on raconte.
Pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face. Viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.
Marc Kravets.
Eh bien, ça ne se passe pas si bien que ça. On est dans les années, alors la guerre est finie, on commence à faire des grands reportages à l'étranger, Albert Londres se fait une gloire d'aller poursuivre la guerre qui se continue dans les Balkans, il raconte très bien, et puis surtout, visiblement, les lecteurs sont passionnés par ça. D'une certaine façon, le reportage dans les journaux a pris la place de ce qui a été au XIXe siècle, le grand succès de ce qu'étaient des journaux un peu populaires qui étaient les romans feuilletons, sauf que à partir dans ce qu'on appelle l'entre-deux-guerres, le reportage, et si possible, le reportage un peu lointain, un peu exotique, a un immense succès. Alors évidemment, il y a de très grands noms. J'ai cité celui d'Albert Londres, un autre très connu pour l'époque, qui sera plus connu ensuite comme écrivain, c'est Joseph Kessel. Et quand les journaux qui les emploient annoncent qu'ils sont partis pendant des mois dans quelques contrées quasiment mythiques, dans quelques monuments à pas de légende, et qu'ils vont revenir et que pendant un mois, le journal va publier leur feuilleton, les rotatives augmentent les tirages de 100, 200, 300 000 exemplaires. Quand on ne peut absolument pas comparer la diffusion de la presse aujourd'hui, avec tous les moyens que nous avons, avec ce qu'étaient les grands journaux de France, pas seulement les journaux de Paris, les grands journaux de France. Dans les années 1930, ensuite, ça va commencer à décliner. À l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, ça sera déjà moins brillant. On aura plus de journaux d'opinion, on aura moins de grands journaux. Des problèmes économiques en sont en partie la cause. Mais en même temps que se développe cette presse populaire de reportage, se développe dans l'aristocratie de nos journaux une réaction extrêmement forte en disant « Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire de nos journaux ? On est en train de les pourrir avec cette mode américaine de rapporter des faits. » Et vous avez des intellectuels de l'époque qui triomphent sur les scènes du théâtre du boulevard ou voire de la comédie française, qui ont pignon sur rue dans les meilleurs établissements parisiens et qui se répandent dans les journaux en disant « Mais on est en train de perdre l'esprit français, la réalité de ce à quoi sert la presse. La presse est une presse dans laquelle on doit juger, analyser, écrire enfin, et pas rapporter des faits. Ça, c'est bon pour des Américains ou des Anglais. » Et donc c'est un long combat qui, d'ailleurs, n'est toujours pas véritablement gagné, qui aurait des hauts et des bas. Tout ceci pour vous dire que ce qui fait, d'une certaine façon, et c'est là qu'on va en arriver très vite, donc à notre époque, enfin, du point de vue général, c'est ce qui fait que on n'a toujours pas le sentiment que l'information est au cœur de ce que devraient être les journaux. Et d'une certaine façon, tous ces débats à n'en plus finir, faut-il croire les journalistes, faut-il pas les croire, peut-on leur faire confiance, sont-ils ceci, sont-ils cela, c'est lié simplement au fait que, grosso modo, on n'arrive pas clairement à se mettre d'accord dans ce pays sur le fait que le journalisme, c'est un métier. C'est ni plus noble ni moins noble que n'importe quel autre métier. C'est une sorte d'artisanat un peu particulier, c'est vrai. Mais qu'on s'improvise, que tout le monde n'est pas journaliste sous prétexte qu'aujourd'hui, n'importe qui veut prendre une photo avec son téléphone, ou qu'il peut écrire, voilà, j'ai vu ça. C'est pas que le journalisme soit réservé à une élite ou à une aristocratie. C'est que, je ne sais pas, peut-être qu'ici vous avez plus de chance, mais moi qui vis dans une grande ville, qui est même notre capitale, quand vous prenez dans les petites annonces des plombiers moins chers que les autres et que, grosso modo, ils n'ont jamais fait de plomberie quand ils arrivent chez vous. Mais on est exactement dans le même cas de figure. La plomberie, la cuisine, vaut mieux que ce soit des gens qui aient appris à la faire, ou qui aient le goût de la faire, qui aient envie de la faire, qui soient derrière les fourneaux. Tout le monde peut cuisiner, tout le monde peut remettre deux tuyaux ensemble, et tout le monde peut griffouiller une histoire dans un journal. Quand je dis que c'est un métier, encore une fois, c'est pas une zone d'exclusion en disant « Ah, pas de ça, pas vous, attention, moi j'ai ma carte de presse, je vous la montrerai tout à l'heure. » Non, c'est simplement parce qu'on exerce une profession particulière. Sauf que c'est tellement peu évident que, à peu près partout ailleurs, les écoles de journalisme se sont répandues comme n'importe quelles autres écoles professionnelles, après, plus ou moins après le bac. Maintenant, c'est longtemps après le bac, mais ça, c'est l'évolution. Mais en France, ça a pris très tardivement. En France, on était encore convaincus, il y a 30 ans, 40 ans de ça, que si on faisait du journalisme, c'était ou bien parce qu'on était fils de, petit-fils de, cousin, neveu. Et par relation, pour le placer, moi j'ai connu des journaux, j'ai travaillé dans quelques journaux avant de passer plus de temps évidemment dans celui qui a été mon journal, c'est-à-dire Libération, où vous entendiez des gens téléphoner au directeur du journal, au rédacteur en chef, peu importe. Écoutez, j'ai mon fils ou ma fille, là, ça fait. Attends, il en est à 6e boîte à bac, il ne sait vraiment rien faire. Est-ce que vous ne pourriez pas en faire un journaliste ? Ça explique aussi un peu ce qui est devenu. Ce que sont devenus un certain nombre de nos grands médias. Ça a changé, je vous rassure. Pas tant que ça. En tout cas, pas de cette manière-là. Non, mais, plaisanterie mise à part, ce que je veux dire, c'est que la confusion autour de ce débat de l'information, c'est tout simplement que l'information n'est pas précisément dans notre culture. Alors, bien sûr, vous trouverez énormément de journalistes, de métiers, qui ont appris leur métier, dans des écoles ou pas. Dans mon cas, par exemple, je ne suis pas passé par une école de journalisme, mais c'est une autre histoire. Mais qui croient vraiment. Simplement, l'organisation de notre presse n'est pas faite pour ça. Vous regardez tous nos journaux, on a beaucoup plus de pages, d'opinions, de faits, sans compter tous les accousquis, de consommation, de ceci, de cela, qui sont des choses nécessaires. Dans les journaux, mais que l'information elle-même, on a toujours l'impression que, sauf exception, elle est réduite non seulement à la portion congrue, mais surtout, elle est extrêmement uniforme. En fait, ça tient à une chose, c'est qu'il y a une grosse machine à produire de l'information dans notre pays, dont on peut, à juste titre, s'enorgueillir, qui est une grosse agence mondiale de presse, qui s'appelle l'agence France Presse, mais qui écrit un peu pour tout le monde. Donc tous les journaux savent que pour l'information, il y a une agence pour ça. Alors, bien sûr, certains ont des reporters, des envoyés spéciaux, des correspondants, mais grosso modo, on reproduit les mêmes dépêches partout. Pourquoi ce n'est pas très important ? Parce que Il y a le personnel nécessaire qui pense, qui s'autorise à penser, qui va commenter tout ça ou arranger tout ça à sa manière. Et d'une certaine manière, c'est une image que j'utilise souvent quand je parle dans des écoles de journalistes. Très souvent, on est soumis à... Enfin, notre rapport avec l'information, comme ça nous rajeunit tous, c'est comme quand on nous donnait, en étant petit, vous savez, des albums où tous les dessins sont faits et on a à mettre les couleurs. Et c'est vrai que les couleurs sont libres. Mais le dessin, il est là. Le dessin est le même pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que ça coûte très cher d'aller chercher de l'information, ça coûte très cher d'avoir des gens qui vont, ici ou là, dire, essayer de dire ce qui se passe. Pour dire ce qui se passe, il faut confronter des témoignages qui sont rarement concordants, rarement tous précis, contradictoires. Je n'entre pas ici dans les détails parce que je voudrais que tous les exemples un peu pratiques, sinon je n'en finirai pas, on les réserve pour la discussion, et là j'essaierai modestement de répondre à toutes les questions auxquelles je suis à même de répondre. Je vous dirai un mot un peu du champ possible. Mais le fait de base, c'est que les journaux disent c'est pas avec ça qu'on va gagner des lecteurs. Les lecteurs, ils ont besoin d'une image, ils ont besoin d'une opinion, ils ont besoin de jugement, ils ont besoin de se reconnaître dans le journal. Alors, le basique du basique, c'est on devrait pouvoir faire confiance à notre journal pour nous dire non pas ce que je dois penser ou ce que nous devrions penser parce que nous sommes assez grands pour ça, et en tout cas on ne permet à personne de penser à notre place, du moins le croit-on, mais en tout cas quels sont les moyens dont j'ai besoin pour juger, pour trancher, pour mettre un bulletin dans l'urne ou pour descendre dans la rue. D'ailleurs, à propos de descendre dans la rue, l'un des meilleurs exemples de ce qui est ou de ce qui n'est pas une presse d'information, c'est précisément les manifestations. Il n'aura échappé à personne, quelle que soit la fréquence avec laquelle vous regardez les journaux télévisés, vous écoutez les journaux radio, vous voulez, que quand il y a une manifestation, petite, moyenne ou grosse, qu'est-ce qu'on donne comme chiffre ? 2. Selon les organisateurs, selon la police. C'est tellement habituel, on a tellement ça dans la tête que on ne se pose même pas la question de dire, mais attendez, celui qui nous dit ça, il était où à ce moment-là ? Il n'est pas capable de nous dire, ils peuvent se mettre à plusieurs, il y avait un défilé de telle heure à telle heure, alors si, les banderoles, tout ça, parce qu'il y a des photos, donc c'est pas trop compliqué à prendre des notes, mais on peut estimer la foule de temps à temps, par ailleurs les organisateurs disent que, et par ailleurs les renseignements généraux disent que. C'est deux informations parce que c'est deux points de vue. Il est normal que les organisateurs gonfle un peu le truc, il est normal que les renseignements généraux diminuent, parce qu'il y a rarement des manifestations pour chanter les louanges du pouvoir en place. Donc, c'est un peu trivial ce que je vous raconte, vous allez me dire, ouais, enfin, il y a quand même des choses plus importantes. Oui, mais sauf que ça commence là. On se croise les bras et on dit, il y avait une manif là aujourd'hui. Alors on peut émettre un jugement, elle a été réussie. Non, les syndicats n'ont pas réussi vraiment leur mobilisation. Non, c'est moins bien que l'hiver dernier. Ce qui est d'ailleurs du jugement. Qu'est-ce qu'on en sait ? Et si alors on en sait quelque chose et qu'on pense que c'est une information, c'est qu'on donne au lecteur, à l'auditeur, au téléspectateur, les moyens d'en juger. C'est moins réussi parce que, au même endroit, à la même époque, nous en avions estimé tant. On ne peut pas dire compter, parce qu'il n'y a aucune manifestation qui passe entre des portiques quand on a une salle de concert où on appuie sur un petit bouton. D'accord. Mais il n'y a rien de plus facile que d'estimer une foule en mouvement, sauf en cas d'émeute. Ça serait possible. Alors pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi ça ne se fait pas ? Alors ça s'est fait. À un moment, le journal Le Monde, quand il y avait des cortèges, ils employaient souvent des jeunes, des stagiaires, en disant, tiens, tu vas faire tes débuts. Alors on les mettait à deux, trois endroits. Alors, quand c'était à Paris, évidemment, je faisais ça sur les épaules de mon papa, à l'époque, donc c'était les grandes manifs entre la Bastille, la République Bastille ou République Nation, c'était les grands défilés parisiens. Et quand, hélas, ça avait mal tourné, c'était République Père Lachaise. Ça arrivait aussi. Mais donc là, vous avez une avenue, alors parfois dans l'autre sens, ce fut un cas célèbre, donc je crois que ça se passait au mois de juin de 1968, une grande manifestation sur l'avenue des Champs-Élysées, de la place de la Concorde à la place de l'Étoile. Mais là, il suffit de regarder un plan, d'avoir une estimation à peu près raisonnable, et c'est très facile à faire, du nombre de rangées, du nombre de gens par rangée, et de la longueur de l'espace parcouru, et du temps mis à le parcourir. Excellent exercice d'ailleurs pour réviser ce qu'on a appris en général au cours moyen deuxième année. Et Quand je vous dis que ça commence là, c'est que ça commence par l'idée qu'on doit d'abord, si c'est une information, si cette manif compte, et elle compte puisqu'on en parle, on doit d'abord donner des faits aussi honnêtement exposés que possible. Aussi, j'ai pas dit des faits objectifs, j'ai pas dit des faits. C'est pas le regard de Sirius. Non. Et tout commence là, d'une certaine façon. C'est que dans tout le reste, pourquoi on. Alors on ne croit pas les journalistes, pourquoi ces débats non plus vite ? C'est que simplement, à partir du moment où ils nous disent que pour estimer un fait, comme je suis honnête, il y a du pour, il y a du contre, je prends aux organisateurs, je prends à la police. Et puis, d'ailleurs, quand on veut exposer ce qui s'est passé, je prends le communiqué des jaunes et je prends le communiqué des violets. Je les mets face à face, je leur donne à peu près le même espace. Alors, si je suis un peu partisan, j'en grossirai un plus que l'autre. Mais attends, j'ai fait mon devoir. Vous voulez de l'information ? Vous avez les. Mais on a des points de vue. Et on a à la rigueur le point de vue du journaliste qui est le point de vue de. Je me mets à côté, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, mais je me suis quand même déplacé pour vous ramasser les communiqués. Pour décrire une grève, un mouvement social, une émeute, même un fait divers, on a besoin de gens qui disent, en recueillant des témoignages, en se posant des questions, parfois en laissant des questions ouvertes parce qu'on n'a pas réponse à tout, qui puissent. Quel que soit l'objectif qu'on assigne à cette information, toutes les informations ne vont pas changer le monde. Toutes les informations ne visent pas à juger le pouvoir en place ou à le déjuger. Certaines sont plus distrayantes que d'autres, certaines sont plus dramatiques que d'autres. Mais le principe est fondamentalement le même. Et le principe, ça consisterait à dire on commencera à croire les journalistes quand les journalistes croiront qu'ils font leur métier. Et nous le prouverons. Et là-dessus, on a le droit d'être intransigeant et exigeant, entre autres parce que, évidemment, la télévision, c'est, enfin, sauf les chaînes payantes, la télévision, c'est gratuit, la radio aussi, mais les journaux sont extrêmement chers en France, et qu'après tout, acheter un journal, c'est un honneur qu'on. D'ailleurs, écouter la radio aussi, c'est un honneur qu'on fait aux gens qui le fabriquent. On les aide à vivre et on leur permet de vivre aussi, mais ils nous doivent quelque chose. Et là, je parle à la fois comme professionnel et comme citoyen. En fait, je suis plus souvent. Un citoyen lecteur qu'un professionnel locuteur. Après tout, ça ne dure que 5 minutes tous les jours. Mais non, je plaisante. Mais je suis exactement dans la même situation avec cette différence entre professionnel et non professionnel. C'est que, disons que comme n'importe quel cuisinier qui rentre dans un restaurant, on est plus sensible à la façon dont ça se passe dans la cuisine parce que on nous la fait moins bien. Enfin, on nous la fait pas, mais... faut pas exagérer non plus, on se fait avoir. Mais en dehors de cette différence de perception, et chacun qui fait un métier, qui est confronté dans un exercice de sa vie, il y a des gens qui vont faire ce métier pour lui, chez lui, que ce soit des artisans ou autre chose, aura exactement le même réflexe. Il n'empêche qu'on peut l'apprécier à chaque fois sur la qualité du service rendu. C'est pas le rapport qualité-prix, c'est la qualité d'un service rendu. L'information est quelque chose qu'on nous doit. L'information est quelque chose qu'une société démocratique doit à ses citoyens. Mais elle le doit, elle ne peut pas être organisée socialement, sinon ça se fait de la presse d'État. Elle le doit, c'est-à-dire elle doit garantir le fait que on veut que nos citoyens soient le mieux informés possible et que les journaux soient là pour ça. Alors pourquoi ça marche pas comme ça ? Donc, si j'ai bien compris dans le titre de ce débat, il y avait information, désinformation. Désinformation, c'est un terme alors à la fois vague, flou, qui sent un peu son complot, et un peu technique aussi. Les techniques de désinformation, c'est une manière qu'on utilise en cas de guerre, vraie ou métaphorique, peu importe, pour tromper l'adversaire, en faisant passer des informations auxquelles il croit, et croyant à celle-là, il va réagir de telle manière. On n'entre pas là-dedans. Je préfère dire à la place, pour être tout à fait moderne, l'information et la communication. Parce que là, on est au cœur de notre débat. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde sait la valeur de l'information. Je ne reviens pas à ce que je vous ai dit au début. C'est que les journaux seraient-ils les plus médiocres possibles ? Les journaux seraient-ils encore plus nuls ? L'information individuelle serait-elle pire que la pire idée que chacun ici peut s'en faire ? Vous avez évidemment des gens qui ont besoin d'une information sérieuse, vérifiée, sourcée, qui sont prêts à la payer très cher. évidemment, tous les métiers qui... j'ai plutôt été spécialisé dans ma vie dans des situations un peu compliquées et loin de France, mais il est clair que dans ces pays-là, qui sont à la fois des pays qui subissent un port malheureux, mais qui sont aussi des pays dans lesquels, pour des raisons pas toutes extrêmement nobles, on investit de l'argent, on en espère du profit, les gens qui sont impliqués dans ce type de processus, évidemment, ne vont pas faire confiance à l'aller-retour du dernier reporter qui a retranscrit une conversation plus ou moins fictive avec un chauffeur de taxi pour savoir si on peut, oui ou non, investir dans le pétrole à tel endroit ou délocaliser une usine à tel autre. On a réellement besoin de savoir de quoi on parle. Et je prends à dessein des exemples brutaux, non pas pour juger les délocalisations ou l'industrie pétrolière, mais pour dire que les gens qui travaillent dans ce domaine-là, on peut élargir tout ça à l'infini, ils ont besoin. L'information, si les journaux ne la font pas, qu'on ne s'inquiète pas, ils la feront, ils iront la chercher, ils paieront très cher des gens pour leur trouver cette information. Une société démocratique, c'est celle dans laquelle on garantit que les citoyens ont des accès à ces informations qui sont de même nature, pas forcément de même précision au sens pointilliste du terme, mais de même qualité que celle que se réserveraient à leur fin propre des gens pour qui cette information est financièrement vitale, quelles que soient les autres raisons. Comme tout le monde sait que cette information est une arme importante, ce qui s'est développé en marche, c'est, après tout, autant la produire. Alors, la politique, enfin, c'est les gros domaines dans lesquels, évidemment, cette discipline s'est développée, cette discipline dite de communication. La politique et l'économie, pourquoi ? Parce que je dirige une grosse boîte, ou je suis chef de parti, ou plus à la tête du gouvernement, voire de la République. Ce que vont apprendre les citoyens, ce qu'ils vont entendre, j'aimerais mieux que ça ressemble à ce que j'ai envie qu'ils pensent de moi, ou qu'ils pensent de nous, ou qu'ils pensent de notre entreprise, ou qu'ils pensent de notre politique, peu importe. Et donc, pour arriver à ce brillant résultat, le mieux, c'est de travailler pour. Donc, on a vu se développer, d'ailleurs, au fil des temps, c'est vrai que partout, on a des problèmes d'emploi. Il y a un secteur qui n'est certainement pas au chômage. Alors c'est un secteur un peu particulier, qui est le secteur de la communication. Aujourd'hui, les fonctions de relations avec la presse, de lecture de la presse, c'est une usine. C'est des dizaines et dizaines de gens hiérarchisés et tout qui mettent en forme le message. Alors ensuite, on peut le sophistiquer plus ou moins, mais il est par exemple... je ne sais pas si c'est un bon exercice, mais il est impossible de lire un entretien avec un homme politique de quelque importance qui soit réellement un entretien qui ait eu lieu entre un ou des journalistes qui posent des vraies questions, informées, documentées, sérieuses, polémiques ou pas, c'est encore autre chose, et qui obtiennent des vraies réponses et qu'on ait la retranscription, simplement mise en forme, je veux dire, sur le plan de la lisibilité, de la grammaire, d'un véritable entretien. Non, on a un exercice qui a peut-être eu lieu en amont, comme je vous dis, avec quelqu'un en face de l'autre. Et puis ensuite, le texte a été retransmis. C'est pas l'intéressé qui n'a pas le temps de ça qui s'en est occupé. C'est, selon l'importance du journal ou de l'interlocuteur, son service de communication qui a gommé ce qu'il fallait gommer, changé les mots qu'il fallait changer. C'est comme ça. Ce qui est moins normal, c'est que des gens qui s'appellent journalistes servent de tremplin, de paillasson ou de relais à cela. C'est là que les choses deviennent complexes. Et c'est là qu'en effet, on est dans un marécage dont on n'est peut-être pas prêt de sortir, tout simplement parce que, faute d'avoir cette discipline de base, et donc je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit auparavant, qui consiste à défendre l'idée qu'une information, c'est un ensemble de choses, de faits, rassemblés de manière à la fois laborieuse, mais soigneuse, rigoureuse, confrontés entre eux avec des éléments de réponses, mais aussi des éléments de doute, et que tout ça est présenté sous la responsabilité de quelqu'un qui a fait ce travail et dont on sait qu'il a les qualités pour faire ce travail, exactement les mêmes qualités que vous réclamerez au plombier ou au cuisinier. Et faute d'avoir ça, on a simplement des gens qui, au nom, c'est journaliste parce qu'on écrit dans les journaux. Mais ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que le mot de journaliste avait un sens tellement péjoratif qu'Honoré de Balzac s'est occupé d'eux. Alors que si on disait qu'on est d'abord des reporters, les reporters ne peuvent pas écrire ni sous la dictée, ni reproduire des communiqués. Ça s'appelle des copistes, dans ce cas-là. C'est un métier très noble d'être copiste. Mais il faut nommer les choses par leur nom. Et dès qu'on arrête d'ailleurs de nommer les choses par leur nom, comme vous savez, on le sait depuis Alice au Pays des Merveilles et Lewis Carroll, les ennuis commencent. Et en effet, on a l'impression maintenant de parler de tout et de rien. Et je vais m'arrêter là. Pourquoi ? Parce que j'ai bien autre chose à vous dire. Mon idée du journal était, et c'est très curieux parce que je n'avais aucune connaissance de l'histoire de la presse, je me suis un peu renseigné plus tard, c'était l'idée justement de ces journaux qui, en gros, menaient des croisades, défendaient évidemment la veuve, l'orphelin, les prolétaires, les opprimés. Bon, bref, des journaux d'opinion, de prise de parti. Et donc, c'est seulement quand... j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe de Libération, qui avait déjà commencé, qui faisait un journal d'ailleurs très particulier, au moment où le directeur de Libération, qui n'était pas encore la personnalité qu'il deviendrait plus tard, disait « mais il faut changer ça », et était très passionné lui aussi de presse américaine. D'ailleurs, c'est le moment où j'ai commencé à vraiment regarder de ce côté-là. Et il disait « mais un journal, c'est pas ça, un journal, c'est... il faut qu'on fasse comme... » Alors, on avait des modèles de l'époque, qui étaient un journal... américain, 15 hommes qui existe toujours, mais qui n'est plus là, qui s'appelait Rolling Stone, qui était un journal de grande écriture, de reportage. On s'est tous mis à rêver que c'est comme ça qu'il fallait travailler. Comme on n'avait aucune idée dans ce journal totalement débutant, balbutiant, brouillonnesque, et qui menaçait de disparaître à peu près tous les deux mois, et qui refaisait une quête auprès des lecteurs pour reparaître le mois suivant, et deux mois après on recommençait. De toute façon, on n'avait ni les moyens de s'abonner à des agences de presse, ni les moyens de traiter l'information comme ça. Donc l'idée est venue que il fallait aller quelque part et raconter des histoires. Et c'est réellement, je ne vous la raconte pas en détail, mais c'est comme ça que j'ai appris peu à peu mon métier. J'ai eu la chance de commencer dans un pays qui était en train d'exploser dans une guerre civile, de ne savoir absolument pas comment on écrivait un article, de trouver deux journalistes américains. L'un était le correspondant du New York Times, malheureusement décédé. L'autre, du Washington Post, ça reste un ami extrêmement proche, qui m'ont dit « Écoute, tu as fait de bonnes études universitaires, tu dois savoir des tas de choses, mais tu es absolument nul pour raconter à tes lecteurs ce que tu as vu. Mais ça peut s'arranger, on va travailler là-dessus. » Et donc, comment de proche en proche, on devient reporter et ceux qui sont suivis. Je vous nomme simplement ça... pour vous dire que, d'abord, c'est à ça en quoi je crois, mais que ça m'a permis donc d'explorer énormément de dimensions de ce métier qui nous mettent toutes. Il n'y a pas de petits ni de grands sujets. Il y a évidemment des sujets qui, du point de vue du destin du monde, ne sont pas de même nature, mais rendre compte d'un match, d'un incident dans une ou d'une guerre civile ou d'un tremblement de terre, c'est fondamentalement le même exercice. Et ce même exercice suppose quoi ? Suppose qu'on y aille, qu'on soit au plus près de cette réalité-là, qu'on ne prétende pas, quand on est quelque part, qu'on est ailleurs. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que si j'ai vu un petit bout de chose, que j'ai travaillé dessus, que je peux dire « ça s'est passé là, à ce moment-là », mais ça ne dit pas que tout se passe comme ça. Ça ne vous donne pas les clés pour tout comprendre, mais ça vous donne les moyens d'entrer dans cette réalité-là, d'en comprendre un petit peu plus, et... ce que je peux attester, et c'est sur quoi je peux engager mes deux points que je peux mettre au feu ou ma tête sur le bio, c'est que ce que je vous rapporte, c'est honnêtement ce que j'ai vu et qui peut peut-être nous aider à comprendre. Et puis, qui ne nous fait pas tout comprendre, qui ne nous fait pas tout voir. Et si on arrive peu à peu à accumuler dans les journaux, il fut des moments où on avait un peu ce bonheur-là, ce genre de regard et ce genre de point de vue, bizarrement, nos lecteurs savent qu'ils n'ont pas tout vu, ils savent qu'ils n'ont pas tout lu, mais... ce qu'on appelle cette confiance qui semble tant manquer aujourd'hui, commence à reprendre peu à peu du sens. Alors, ensuite, on traite des problèmes qui sont parfois d'une complexité telle où les passions sont tellement engagées. L'un des sujets qu'on avait avec Jean envisagé là pour la soirée, c'est de parler du traitement journalistique des problèmes du Proche et du Moyen-Orient, où, pour mon malheur, j'ai donné une petite vingtaine d'années de ma vie. C'est vrai que là, on est dans des domaines un peu particuliers, où c'est quoi d'être... comment peut-on ne pas être partisan quand tout est partisan dans la réalité ? Mais on pourrait multiplier ces exemples-là. C'est pour ça que je n'en prends aucun. Pour laisser à tout un chacun, tout un chacune, le soin d'entrer dans ce débat par le bout qui vous semblera... Il n'y a pas de petit ni de gros bout. Il n'y a pas de bout anecdotique. C'est d'ailleurs pour ça que, faute de trouver un journal écrit, je n'ai pas désespéré, j'ai choisi dans un long dialogue avec l'administration, la direction de France Culture et l'animateur des matins de France Culture, de poursuivre ce travail-là momentanément, ça fait 5 ans que ça dure, par un autre moyen, en racontant ce qu'on appelle ce portrait du jour. Et le portrait du jour, c'est quoi ? Ben, c'est l'une de ces petites pièces de puzzle. Alors, évidemment, je ne suis pas sur le terrain pour les raconter toutes, mais à travers des gens en qui je fais confiance, des journaux que je recompose entre eux, pour donner à chaque fois un aperçu de ce qui... c'est pas des anecdotes, parfois, mais c'est des petits aperçus de la réalité qui sont en fait les petits ruisseaux qui entrent dans le grand fleuve de l'actualité. Mais si on ne regarde que le grand fleuve de l'actualité, on voit à la rigueur les barrages, on voit parfois le port, on passe par-dessus le pont, et là, bah, j'ai l'ambition, la prétention et la modestie en même temps de dire, de temps en temps, il est bon de se mettre un peu au ras de l'eau pour raconter les gens qui, malheureusement, survivent de la pêche, ou sinois, parfois. Voilà, je vous remercie, et maintenant, c'est à vous.
Danse, ma jolie danse, danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau, et à l'intérieur une flamme. Que ce soit de l'économie, du virtuel, de l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout. Dans nos bistrots.
Cette émission vous est offerte par le Théâtre Éprouvette et l'Abbaye du Jouir. Vous pouvez la réécouter sur le site internet www.théâtreéprouvette.fr.
Ensemble et bien plus beau grâce à cette université des bistrots. Danse, ma jolie danse, danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.